la mission première, c'est d'empêcher la guerre, de voir quand il y a rupture de la paix pour pouvoir intervenir. Mais comme vous savez, le Conseil de sécurité, c'est une espèce de gouvernement à l'intérieur de l'ONU et on n'est pas toujours d'accord sur les visions géopolitiques et stratégiques du monde. C'est ce qui fait que ça n'enlève pas sa mission, mais ça la rend difficile.
Alors justement, on évoque des réformes nécessaires, notamment au sein du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui doit changer et pourquoi ?
Les membres du Conseil de sécurité, donc les cinq grands, ce sont ceux en fait qui ont gagné la guerre. Donc ils se sont donné des privilèges et donc il y a le droit de veto pour les cinq grands. Alors le problème maintenant, c'est que cette situation que je vous décris, elle date de 1945. Et nous sommes aujourd'hui dans une autre situation géopolitique où il y a des États qui sont devenus importants par leur force, disons, économique. Je pense à l'Allemagne, je pense au Japon, pour ne citer qu'eux, du point de vue économique. Mais il y a également d'autres puissances émergentes en Afrique. Il y a le Nigeria, il y a l'Égypte, il y a de grands pays qui pourraient aussi, pourquoi pas, faire partie des grands de l'ONU à condition de respecter une forme de répartition géographique pour qu'il y ait une meilleure représentativité au XXIe siècle.
Kofi Annan a annoncé une commission d'experts qui vont faire, je crois, en décembre, si je ne me trompe pas, une série de propositions pour donner, je cite Kofi Annan, plus de crédibilité et de légitimité à l'organisation. Vous pensez, vous aussi, que c'est nécessaire ?
Ben, c'est nécessaire parce que, vous savez, une organisation ne doit pas être figée. Et c'est vrai que l'ONU pourrait passer pour une grand-mère qui ne sait pas se rajeunir. Il ne faut pas que les États, quels qu'ils soient, se situent au-dessus de l'ONU. Sinon, les États vont se servir de l'ONU comme un outil de marchandage. D'un côté, on va plaider la légitimité quand on peut s'en servir, et quand on ne va pas s'en servir, on utilise la force. Et là, nous voyons que les grands, entre autres l'administration Bush, agit uniquement selon des intérêts tout à fait stratégiques. La guerre d'Irak, l'ONU est sur la touche, vous vous rendez compte combien ça peut être grave.
Alors, mais quand même, l'ONU est parfois présentée comme la panacée par les partisans du multilatéralisme. Pourtant, Kofi Annan lui-même a fait son mea culpa au sujet en particulier du génocide rwandais. Il a parlé de péché d'omission. On peut penser aussi au massacre de Srebrenica, au problème du Darfour actuellement. Et puis, il y a aussi autre chose. Le problème, c'est qu'en Irak, par exemple, ou en Afghanistan, l'ONU plie bagage. Or, on attend qu'elle tienne ferme dans les situations de crise.
L'ONU sera toujours dans une situation désastreuse, comme vous venez de signaler, où elle intervient après coup, un peu comme avec les commissariats de police, ils attendent qu'il y ait le délit pour intervenir, alors qu'elle devrait intervenir préventivement. On est d'accord là-dessus. Bon. Mais que peut faire l'ONU si vous avez des grands, des super grands, des hyperpuissances qui vont bloquer le processus? Je vous signale un fait que vous connaissez. Kofi Annan, dans son bureau, il était écouté. Alors, quand vous imaginez que le secrétaire général est espionné dans son propre bureau à l'ONU, vous pouvez penser que peut faire ce monsieur dans des situations aussi scabreuses. C'est seulement un exemple pour bien vous montrer combien l'ONU est une organisation dépendante de la volonté des superpuissances. Je ne veux pas dire que je suis pessimiste, mais on est obligé de faire preuve de réalisme. Et ce réalisme, c'est plutôt le verre à moitié vide. La question est dans l'équation force et droit. Qui doit l'emporter ? La force du droit ou le droit de la force ? C'est notre problème d'hier, d'aujourd'hui et je pense de demain.